Je me suis pris une petite liberté, un petit trait d'humour avec un célèbre logo que nous avait montré Christophe Drainoux, que vous connaissez lors d'un stage. Je me suis dit qu'après tout, ça s'applique aussi aux chaînes qui sont aussi de temps en temps, voire malheureusement un peu trop souvent maltraitées dans les endroits où on les cultive. Ok. Donc bienvenue pour un petit tour d'horizon rapide. Au sujet des chaînes, voici donc le plan d'intervention. On va commencer par définir ce que c'est exactement un chêne, parce que ma foi, vous vous rendez compte que si on se fie notamment à la morphologie foliaire, c'est pas forcément évident de savoir que c'est un chêne. On va voir où ça se trouve dans le monde, les différents milieux, vous verrez que c'est extrêmement diversifié. Ensuite, un aperçu de diversité en passant par les grandes zones géographiques où on rencontre des chênes. Et puis, pour finir, quelques utilisations propres à ce genre qui sont multiples et variées. Alors, qu'est-ce qu'un chêne ? Donc, un chêne appartient à la famille des Fagacées. Il y a 9 genres. Parmi les genres connus, vous connaissez les hêtres, les châtaigniers. Et puis, un petit peu aux États-Unis, mais surtout en Asie du Sud-Est, on a le genre Lithocarpus. Alors effectivement, les Lithocarpus produisent des glands. On pourrait dire aussi que ce sont des chênes, puisqu'un chêne est un arbre qui produit des glands. Mais c'est un arbre qui produit des fleurs pendantes, ce qui n'est pas le cas des Lithocarpus, ce qui n'est pas le cas des châtaigniers. Et bon, les hêtres, évidemment, n'en font pas partie. Voilà en gros les 3 caractéristiques principales, on va dire, permettent de dire que ce sont des chênes. Alors, les floraisons, les voici. On a donc floraisons mâles et femelles portées sur le même pied. Ce sont des espèces monoïques. Les chênes commencent d'abord par faire apparaître leurs fleurs mâles et leurs fleurs femelles ensuite. Voici, pour certaines espèces, on a des chatons qui sont assez spectaculaires, comme c'est le cas pour ce chêne nain asiatique. Les fleurs femelles sont par contre extrêmement discrètes. Et c'est la raison pour laquelle on ne s'attarde pas forcément sur la description des organes floraux des chênes. Déjà, c'est fugace et c'est peu visible. Il y a suffisamment d'autres critères pour pouvoir les déterminer plus facilement. Alors, effectivement, ça produit des glands. Mais on peut se rendre compte que la diversité des glands est assez phénoménale. Là, je vous ai mis, en fait, et on va embrayer ensuite sur des questions de systématique, sur les 4 grandes catégories de chênes. Ça doit être ceci. Ok. Le groupe des chênes asiatiques à cupule cerclée, avec ici un chêne himalayen. Donc le gland est pratiquement entièrement chassé à l'intérieur. Le chêne pédonculé que nous connaissons en Europe, un exemple de chêne rouge américain, et un autre groupe de chênes relativement archaïques, qui ne comporte que 5 espèces, qu'on trouve au Mexique et sur une partie des États-Unis. Donc là, on a effectivement une diversité de cupules. Les cupules sont la carte d'identité réelle des chênes, ça permet au moins de savoir dans quelle section vous vous trouvez. Et c'est vrai que parfois on me demande d'identifier des chênes, on ne me donne que le gland, et le gland, en gros, on pourrait s'en passer. Moi, la cupule me suffit personnellement, enfin pour déterminer le groupe, hein, pas pour déterminer l'espèce, attention. Mais ça permet déjà d'en déblayer une bonne partie. Donc si un jour vous avez des chênes à identifier, ramassez surtout cette partie-là qui est vraiment essentielle. Alors, le genre Quercus, au niveau systématique, c'est 2 sous-genres. Un sous-genre Quercus, on répète le nom, dans lequel on a un peu plus de 300 espèces, avec 3 sections, les chênes rouges, qu'on rencontre exclusivement sur le continent nord-américain, les fameux chênes dorés, ces chênes à cupule dorée que j'avais mis tout à l'heure en bas à droite, 5 espèces seulement, hein, qui sont donc mexicaines et du sud des États-Unis, et les chênes blancs, la grosse tribu qu'on rencontre aussi bien de l'extrême est asiatique jusqu'au Mexique, en passant par l'Europe évidemment. Et le fameux groupe des Cyclobalanopsis, qui est un groupe de chênes, les chênes à cupules cerclées, que l'on voyait tout à l'heure. Vous avez 100 taxons à ce jour, suite à une dernière révision taxonomique qui a été publiée il y a 2 ans par une collègue chinoise, pardon, et qu'on rencontre exclusivement en milieu subtropical, tropical et même équatorial, donc en gros de Bornéo jusqu'au centre du Japon. Et jusqu'à l'Himalaya pour la partie occidentale. Donc à l'heure actuelle, on est sur environ 430 taxons différents. Il faut savoir qu'en gros, on découvre des espèces encore un peu en chaîne, essentiellement au Mexique. On a encore des découvertes à faire dans ces zones-là. Et on a aussi des espèces qui disparaissent, non pas parce qu'elles sont rayées de la carte, même si certaines sont rares, mais qu'en fait, les travaux de taxonomie évoluent. C'était le cas donc, en Chine dernièrement, et puis prochainement dans la Flora Neotropica que va produire l'Université d'Ithaca à New York, dans lequel les chênes d'Amérique centrale vont être également révisées. Donc on va commencer par montrer les caractéristiques principales de ces quatre grands groupes de chênes. Donc pour commencer, les chênes blancs, la répartition géographique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de l'Europe, Afrique du Nord, Asie, tiens d'ailleurs, oui c'est ça, Amérique du Nord et centrale. Et en fait, ce qui détermine ce qui est un chêne blanc ou un chêne rouge, c'est quelque chose de typiquement systématique, c'est la position des ovules avortés sur la graine. Une petite faute d'ailleurs, c'est deux fois. Elles se trouvent au sommet, alors que chez les chênes rouges, elles se trouvent à la base. Voilà. Tous les autres critères ne sont pas fiables, notamment la durée de maturation des glands qui peut être de 2 ans chez la majorité des chênes rouges, mais certains chênes rouges maturent en 1 an. Et chez les chênes blancs, on a les chênes chevelus qui vont peut-être être rangés à part, qui font toujours leur maturation en 2 ans, alors que c'est 1 an pour la plupart des chênes que vous connaissez. Ah, pardon, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Les chênes rouges, je vous ai mis un format de feuille relativement typique avec le chêne écarlate. Vous verrez que chez les chênes rouges, on a vraiment de tout. On a même des chênes qui n'ont pas de lobe du tout. Et les écorces sont généralement assez peu crevassées. Il faut vraiment tomber sur des vieux sujets pour avoir des crevasses un peu profondes. En général, ce sont des écorces quasiment lisses, y compris sur des arbres relativement âgés. Donc, comme je vous ai dit, la position de l'ovule avorté est à la base et non plus au sommet, comme c'est le cas chez les chênes blancs. Les chênes dorés, qui sont des chênes archaïques, hein, on a trouvé des fossiles qui datent de l'ère tertiaire qui correspondaient à ce type de chêne, donc présents du nord de la péninsule de Basse-Californie au Mexique, jusqu'on va dire aux états de Sonora, de Chihuahua, à la frontière américaine, centre-nord du Mexique, et Californie, Nevada, Arizona, peut-être un peu Nouveau-Mexique aussi. Donc là, on a, entre autres, ces caractéristiques de position d'ovule, toute une série de poils glanduleux dorés qui sont présents au revers des feuilles et également sur les cupules. Voilà. Quercus chrysolepis, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure pendant le tour géographique. Et donc, pour terminer ces quatre grands groupes de chênes, les chênes à cupules cerclées. Donc, voyez, on voit ici les écailles sont soudées en cercle concentrique alors qu'elles sont détachées. Relativement serré chez les chênes rouges et libre chez les chênes blancs, comme les chênes chevelus, par exemple, qui ont des cupules à écailles linéaires. Mais chez les cyclos, c'est comme son nom l'indique, on a un certain nombre de cercles concentriques. Alors, chez les espèces, pour les déterminer, c'est un genre assez compliqué, enfin, un sous-genre assez compliqué. Il faut absolument avoir les glands, et notamment les cupules, et compter le nombre de cercles, voire la pubescence également. Ensuite, au niveau des feuilles qui sont toutes persistantes dans ce groupe, systématiquement persistantes, feuilles entières ou dentées, mais elles ont souvent cette forme-là. Alors, ce sont un groupe de chênes exotiques qu'on commence à faire connaître et qu'on commence même à planter en ville maintenant. Je pourrais vous parler notamment des qualités très étonnantes de résistance tant au froid et au chaud de ce groupe de chênes-là, enfin, chez un certain nombre d'espèces, évidemment. On a des écorces qui sont généralement lisses et qui, lorsque les arbres vieillissent, ont plutôt un aspect de peau de pachyderme. Hein, les cyclobalanopsis à écorce écailleuse sont assez rares. Donc on a réellement un standard d'arbre exotique. On a l'impression d'avoir un camphrier dans son jardin, quasiment. Hein. Parce que les écorces de camphrier ne sont pas comme ça, mais l'aspect général de l'arbre fait vraiment appel à un format d'arbre tropical. Alors ce groupe de chênes est également présent à l'ère tertiaire. On peut dire que les premiers chênes au monde ressemblaient à ça. Petite parenthèse malgré tout, dans certaines littératures, notamment la nouvelle flore de Chine, les cyclobalanopsis sont présentés comme un genre à part et donc sont détachés du genre Quercus. Bon, c'est plus une décision politique que scientifique, les Chinois essayant à l'heure actuelle de se réapproprier leur flore, donc en changeant les noms, parce que la plupart de leur flore a été décrite par des Occidentaux, donc il y a une petite volonté de récupérer leur flore. Donc on est un peu loin de considérations scientifiques. Alors, il s'est passé un certain nombre de choses, au moins en Europe, notamment avec les glaciations, et ceci pour vous montrer une carte issue des travaux d'Alexis Ducoussou, Antoine Crémer, l'équipe de l'INRA de Bordeaux, qui montre les grandes zones de reconquête des chênes en Europe, hein, péninsule ibérique, on a l'Italie, et la fameuse zone des Balkans, passant par la Turquie, qui, après les grandes glaciations du Quaternaire, ont permis aux chênes de se recoloniser avec un procédé assez curieux. On appelait ça un peu le porteur de valise, c'est-à-dire que c'est le chêne pédonculé qui se faisait hybrider par le chêne sessile. C'était toujours dans ce sens-là, hein, avec mère pédonculée et père sessile. Et il y a eu des introgressions, effectivement, qui ont permis ensuite, au fur et à mesure que les pédonculés étaient dispersés, plus facilement, parce qu'en fait, la forme du bec, du jet des chênes, correspond beaucoup mieux à la forme du gland du pédonculé que le sessile. Et ainsi, finalement, le sessile a pu à nouveau coloniser le reste de l'Europe, mais par retour de rétrocroisement et d'hybridation successive. Bon, c'est quelque chose d'un peu complexe, mais c'est pour vous résumer le processus de recolonisation en Europe, et ça a marché de cette manière-là. Alors, la répartition du genre Quercus, elle est quasiment exclusivement dans l'hémisphère nord, sauf Bornéo, Sumatra, Java. Et il y a même des chênes, effectivement, dans l'archipel de la Sonde, avec les grandes zones de diversification qui sont le sud-est asiatique, comme je vous le montrais, et le Mexique. On va beaucoup s'attarder sur le Mexique tout à l'heure, puisqu'on a au Mexique ni plus ni moins que 30% du nombre d'espèces mondiales, ce qui est également le cas chez les pins. Vous avez 30% d'espèces de pins là-bas. Donc, en gros, c'est 160 chênes au Mexique, 53-54 pins, pour vous donner une idée de la richesse de la flore locale. Et en Europe, on est nettement moins bien loti, parce que si mes souvenirs sont exacts, on a environ une quarantaine d'espèces si on comprend la Turquie et le Caucase. Alors, on a juste un couloir qui est un petit peu trop large par rapport à la réalité, qui a permis aux chênes blancs de passer du Caucase à l'Himalaya avec quelques chênaies qui se trouvent en Iran et en Irak. Donc, la répartition des chênes par continent, la voici. Donc, vous voyez, oui, 39 en Europe. C'est un peu pitoyable, mais la faute aux glaciations et l'orientation des chaînes de montagne qui n'a pas permis une recolonisation nord-sud, les chaînes de montagne étant orientées est-ouest en Europe, nord-sud en Chine et au Mexique. Et ça a été beaucoup plus facile pour les espèces de recoloniser en reprenant les vallées vers le nord qu'en Europe. Vous avez les Pyrénées, les Alpes et les Carpates qui ont été des barrières quasi infranchissables. 156 en Asie. Et vous voyez, 234 en Amérique du Nord, dont 154 rien qu'au Mexique, dont 100 espèces endémiques rien qu'à ce pays, qui fait 4 fois et demi la France. En France, on a 12 espèces, 10-12 espèces, si vraiment on prend ça au sens large, avec un pays, vous voyez, 4 fois et demi plus petit. Alors, les chênes présents en France, les voici. Le chêne chevelu, qui n'est présent uniquement à l'état spontané dans les Alpes-Maritimes, uniquement, partout ailleurs, il a été introduit. Faginea, qui est un chêne extrêmement rare en France, a priori uniquement présent dans une petite partie du massif des Albères, dans les Pyrénées-Orientales, et qui n'est pas décrit dans la flore forestière française, parce qu'il est anecdotique. Le chêne sessile, le chêne pubescent, le chêne tauzin et le chêne pédonculé. Pour les caducs, quant aux persistants, le chêne kermès, le chêne vert, je reviendrai sur celui-là après, le chêne liège et le rotundifolia, le chêne à gland doux, qui a longtemps été pris pour un chêne vert, mais qui existe en France depuis au moins a priori l'époque du néolithique, puisqu'on a trouvé des... Ça, c'était Pierre Liotagui qui avait fait cette découverte-là. Il y a eu des urnes qui renfermaient des chênes épluchés. Il faut savoir que c'est un chêne qui n'a pas de tanin et qui se consomme cru quasiment. On pourrait le consommer cru. Donc, a priori, c'était pour de l'alimentation humaine et non pas l'alimentation animale. Donc, de là à en conclure, effectivement, que ce chêne était déjà présent à l'époque. Et comme il ressemble beaucoup au chêne vert, on a tendance à ne pas faire attention à lui. Et un collègue de l'ONF a découvert des nouvelles stations dans les Pyrénées-Orientales sur Banyuls l'année dernière, par exemple. Donc, c'est une aire qui est entièrement à prospecter, puisqu'on le trouve également jusque dans les Alpes de Haute-Provence, hein, ce chêne. Qui dit grande diversité géographique, comme vous l'avez vu, dit également grande diversité de milieux. Vous voyez, on part de la forêt dunaire jusqu'à la forêt de haute altitude en montagne, de l'équatorial à la forêt quasi-boréale. Donc on va passer un peu en revue tous ces types de milieux. Il faut savoir que finalement, le genre Quercus est le seul genre au monde où vous avez... pour un genre important, parce qu'on a d'autres genres comme les eucalyptus ou les acacias qui sont plus nombreux, mais qu'on ne trouve qu'en climat tropical ou subtropical. Le chêne, on le trouve partout, du climat équatorial au climat montagnard. C'est le seul genre au monde qui occupe autant de diversité climatique. Donc voici un exemple en Nouvelle-Angleterre, au New Jersey, avec Quercus illicifolia, un chêne arbustif. Les forêts méditerranéennes, évidemment les forêts que vous connaissez, hein, les garrigues à chêne kermès et à chêne vert, mais également la grande vallée centrale californienne avec ses grands paysages, avec ses chênes très dispersés, hein, comme Quercus douglasii. Les milieux semi-arides, là on est dans le subdésertique avec le désert de Mojave, vous voyez un magnifique Yucca brevifolia au fond, mais ce buisson est un chêne hein, dont la taille adulte dépasse guère les 4-5 mètres. En forêt tropicale humide, la voici avec un sujet de Bornéo, avec des contreforts caractéristiques des arbres des forêts équatoriales. Forêt tropicale sèche, moi des paysages que j'affectionne particulièrement, là sur la chaîne volcanique centrale mexicaine, avec ces quercus préco en forme de parasol là, qui sont très dispersés. C'est typique des paysages des forêts tropicales sèches mexicaines. Les forêts de montagne. Alors le chêne, il est là. C'est un couvre-sol. Vous l'avez vu en fleur mâle tout à l'heure, Quercus monimotrica, avec donc l'Himalaya derrière. On en trouve également dans des types de sols très variés. Ça va du sol complètement engorgé d'eau toute l'année, aux sols les plus secs possibles. Donc Quercus lyrata, là au sud-est des États-Unis, avec les grandes tillandsias, les broméliacées, qui sont caractéristiques des climats humides, qui pendent sur les branches. Alors, une diversité également au niveau du port. Hein, voilà, un chêne tapissant encore au Texas, hein, dans un des endroits les plus secs du Texas. Mais à côté de ça, voilà les grands chênes de futaie que vous connaissez, notamment ici en Belgique. Voilà, je m'attarde encore un petit peu sur les chênes nains avec Quercus vaccinifolia ici au pied de genévrier Juniperus occidentalis millénaire. Et ici les garrigues en Grèce à chêne kermès qui sont complètement en train de courir sur les rochers calcaires. Un port un peu intermédiaire, là on est à la limite Texas-Mexique, hein, dans les monts Chisos avec un buissonnant. Il y a beaucoup de chênes buissonnants à feuilles plus ou moins épineuses dans ce secteur. Et en chêne d'eau de futaie, voilà, je reviens dessus. Et vous voyez qu'en Amérique centrale, on a aussi des chênes de 60 mètres de haut dans les forêts pluviales du Costa Rica. Milieu ouvert, le préco, que je vous ai montré tout à l'heure avec le paysage. Au niveau diversité morphologique, c'est ce qui est peut-être le plus troublant chez les chênes. Donc on a des feuillages de trois types. Semi-persistant, c'est qu'en fait les nouvelles feuilles apparaissent et font tomber les précédentes, qui persistent plus ou moins complètement suivant la rigueur de l'hiver. Alors, le phénomène de marcescence que voici ici est complètement différent. On ne peut pas l'assimiler aux trois autres modèles ci-dessus. C'est un moyen qu'ont généralement les chênes, souvent jeunes, de protéger leurs bourgeons du froid pendant l'hiver. Et les feuilles tombent complètement au printemps avec l'arrivée de l'ouverture des bourgeons tout neufs. Alors, ce qui est aussi important que les cupules chez les chênes, ce sont les pubescences qu'on retrouve face inférieure ou pas, suivant les espèces. Et je dis toujours aux personnes qui veulent me donner des chênes à identifier de photographier toujours le revers de la feuille. C'est vraiment un moyen important. Alors, ce sont les trichomes, généralement avec un bon grossissement 10 ou un grossissement 20. Un compte fil suffit hein, pour les voir. On voit bien la forme des poils qui peuvent être étoilés, fasciculés, etc. Et pour faire beaucoup plus bref, on trouve ce qu'on appelle également des poils glanduleux qui sont jaunes. Là, on les voit. Hein. Ce sont des poils qui sécrètent une espèce de substance un peu collante. Chez certains chênes, c'est un moyen de différencier une espèce d'une autre. Voilà, ça peut servir. Mais on a des tapis de tome en tome importants hein, chez certains chênes de milieux secs, voire très secs, comme c'est le cas chez Cornelius mulleri qui vit dans le désert. Et ce procédé est un moyen de limiter l'évapotranspiration, comme vous l'imaginez. Alors, le chêne, c'est aussi un écosystème à lui tout seul. Là, vous voyez que sur l'écorce d'un gros Quercus lobata, on a ce pic-là, l'Acorn Woodpecker, comme on l'appelle aux États-Unis, qui fait des réserves de glands dans l'écorce des chênes. Et ce qui était cocasse, c'était de trouver des glands en train de germer, même dans l'écorce. Et quand le germe est du bon côté, le gland s'expulse et tombe à l'aplomb du chêne en question. Quoi. Bon, ça, c'est le célèbre pic prune qui est responsable de la petite déviation de l'autoroute qui va entre le Tour et le Mans, vous connaissez, et qui est un coléoptère saproxylique, donc qui vit dans le bois mort. On est parti maintenant au niveau géographique avec deux glands très spectaculaires, les glands les plus grands qui existent au monde, qui font 7 cm de diamètre. Carcus rex, qui est un cyclobalanopsis, qui est assez rare en Chine, mais qui est un gland assez large mais plat. Et le fameux Carcus insignis mexicain, qui pèse jusqu'à 50 grammes. C'est impressionnant de voir des tapis de glands comme ça au sol. On n'en a pas besoin de ramasser beaucoup. Bon, c'est malheureusement une espèce, on en a ramené un certain nombre lors de notre dernier voyage, mais on ne le cultiverait à peu près correctement que dans la région d'Antibes et Menton, chez nous. C'est un chêne qui n'est pas rustique du tout, mais qui est impressionnant, même au niveau de ses feuilles. Alors, on va commencer par un chêne européen, avec le chêne de Chypre, Carcus alnifolia, qui est le seul chêne européen qui appartient à un groupe qu'on rencontre assez fréquemment dans l'Himalaya. Ce sont des chênes qui ont un tomatum face inférieure jaune ou orangé. Donc on a des petites feuilles persistantes convexes et ça pousse en sous-étage de cédrets. Là, voilà, ici, ça, c'est Cedrus brevifolia, donc le cèdre endémique de Chypre. On a une petite cupule à chevelu qui enchâsse le gland, en gros, sur un cinquième ou un sixième. Et moyen facile de se souvenir, moi j'aime bien ces petites images, les odeurs, les formes, etc., sont aussi des moyens de reconnaître des arbres. C'est le seul gland au monde qui a une forme de suppositoire, donc c'est quand même assez facile à mémoriser. Alors bien avant les Américains, on avait retrouvé Ben Laden en Afghanistan. Il est en train de mesurer un chêne avec son collègue. Plus sérieusement, l'Afghanistan est un pays très forestier, contrairement aux images qu'on a tendance à vous montrer, et dans lequel on trouve un chêne qui produit des glands sucrés, Carcus balut, qui est une sorte de chêne vert à feuilles crispées. Alors, quand l'arbre est jeune, les feuilles sont très dentées, et quand l'arbre est plus âgé, les feuilles sont entièrement lisses. Voilà. Donc là, un très très gros sujet de Carcus balut. C'est vraiment un arbre qui a une importance alimentaire fondamentale en Afghanistan et sur les parties sèches de la partie occidentale de la chaîne himalayenne. On part cette fois en Asie avec Carcus championi qui appartient au groupe des cyclobalanopsis. Vous voyez, par contre, la feuille n'est pas du tout un peu cette feuille de châtaignier que je vous ai montrée tout à l'heure. Ce sont des feuilles plutôt ovales, souvent convexes aussi. Et là, on a un vieux sujet de forêt primaire dégradée. Là en dessous, bon, on a de la régénération d'autres espèces et on a cette énorme chêne là, de presque 50 mètres qui passe au-dessus de la canopée. Taïwan est un pays intéressant pour les chênes aussi, et pas pour les chênes d'ailleurs. On a, moi je crois, plus de la moitié de la superficie qui est en espace naturel protégé. Gilva est un cyclobalanopsis qui se caractérise par ses jeunes feuilles qui sont complètement dorées, les jeunes pousses le sont aussi, les poils des cupules sont également jaunes. C'est un chêne qui supporte le climat de la région parisienne. Et pour certains cas, au Japon, on arrive à trouver des sujets de plus de 30 mètres. C'est probablement l'un des plus beaux cyclos et aussi l'une des espèces acclimatables dans les jardins, à climat relativement doux. Une espèce de milieu, alors à la fois sec une partie de l'année et très humide le reste du temps, comme en témoignent à nouveau ces broméliacées qui sont ici. Et on retrouve ce feuillage qui est, vous voyez, la couleur rouille face inférieure. Donc on a tout un groupe de chênes himalayens qui ont ces caractéristiques-là, qui sont assez difficiles à identifier, donc il faut généralement les glands en même temps et regarder l'arbre à différentes périodes de l'année. C'est aussi le cas pour les cyclobalanopsis, c'est un critère nous qu'on a rajouté en identification qui n'était pas écrit dans la littérature. Il faut regarder la couleur des feuilles quand elles débourrent et la pubescence qui peut être présente. Et ensuite, ce caractère disparaît. Et comme chez nous, on a rarement les glands dans ce groupe-là, ce critère-là permet aussi de cibler éventuellement ce que ça n'est pas, avant peut-être même de donner un nom sur l'espèce en question. Alors, en voilà un pour lequel j'ai une attention toute particulière. Carcus phileroides qu'on trouve au Japon mais aussi un petit peu en Chine. C'est un chêne de petite taille, plutôt buissonnant ou plus ou moins arbustif, qu'on trouve sur les rochers calcaires en bord de mer. Donc c'est un arbre qui supporte les embruns salés. Son nom latin c'est chêne à feuilles de filaire parce qu'il ressemble beaucoup au filerea latifolia qu'on rencontre dans la région méditerranéenne. Et ce chêne est cultivé sous forme de haie taillée au Japon. Alors, avec un collègue pépiniériste, on s'est dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de le tester. Donc Orléans a planté une haie de ce chêne-là dans un jardin d'enfants du Jardin des Plantes. Et on est quelques-uns à l'avoir testé dans nos jardins respectifs. Pour l'instant, j'en suis pas au stade de faire une haie opaque. Alors évidemment, c'est l'un des remplaçants potentiels du thuya. Il ne faudra pas après tomber dans le même travers d'en faire des alignements de 500 mètres. Ce qui est intéressant chez le Phyllerhoides, c'est que ce n'est pas un arbre qui est cloné. Donc on a une variabilité individuelle qui le rend potentiellement moins sensible à des ravageurs qu'on ne l'a sur des clones comme le thuya trovirens, par exemple. Alors c'est un chêne qui supporte des températures de moins 20 degrés, mais aussi de plus 45. Donc on a un potentiel intéressant. Autrement, en forme libre dans un jardin, c'est quelque chose qui a un feuillage très dense et un arbre vraiment très, très esthétique. Variabilis, c'est le chêne liège de Chine. Donc il y a des personnes qui sont originaires d'Angers qui sont ici. À l'arboretum Gaston Allard, vous pouvez en voir de très beaux. Il a effectivement l'écorce comparable à notre chêne liège. Il paraît qu'au niveau de la qualité du liège serait moindre par contre. Donc il a des feuilles de châtaignier, des cupules de chêne chevelu et le revers de la feuille est glauque. C'est un très bel arbre qui pousse rapidement sur des terrains relativement pauvres. On commence à planter de la cutissima en ville, en ornement. On pourrait tout à fait planter également du variabilis dans le même type de milieu. On va quitter le vieux continent cette fois pour passer au Nouveau Monde avec un arbre couramment planté au sud-est des États-Unis en tant qu'arbre d'ombrage, sur les parkings en particulier et dans les rues. Là, on est en Caroline du Sud, à Aiken, qui est une petite parenthèse, une ville intéressante, dans le sens où c'est un arboretum à l'échelle de la ville. Quand vous allez à Aiken, l'office du tourisme vous donne un petit fascicule et vous allez faire le tour des arbres. Tous les arbres sont en forme libre, en ville. Bon, c'est vrai que les milieux, les rues américaines s'y prêtent. Et on a une autre façon de considérer l'arbre là-bas, c'est plutôt au réseau de s'adapter à l'arbre et non le contraire. C'est vraiment toute une philosophie. Et cette ville est très intéressante pour ça. C'est aussi le siège de la plus grande pépinière ornementale de la côte Est. Donc ceci explique aussi la diversité des végétaux qu'on y trouve. Quercus phellos, c'est ce qu'on appelle le chêne à feuilles de saule, donc des feuilles linéaires complètement, qui peuvent prendre des couleurs d'automne intéressantes. C'est un arbre qui a la même architecture que le chêne des marais, donc des grandes branches horizontales, perpendiculaires au tronc, et beaucoup de petites branches très ramifiées. Donc c'est quelque chose à savoir, quand on plante un phellos, il faut de la place. Le macrocarpas, c'est le grand chêne blanc du Middle West. Pour la plupart, enfin, ça signale vraiment les paysages. On a des feuilles qui sont profondément lobées au milieu, très étroites à la base, et un gland assez volumineux qui peut passer presque du simple au double suivant que vous quittez la frontière canadienne et que vous allez jusque dans le Kansas, par exemple. Les glands sont beaucoup plus gros vers le sud. Là, on a l'un des national champions américains. Il faut savoir que les Américains recensent leurs arbres les plus gros, les plus larges, les plus hauts, quelle que soit l'espèce, y compris pour des espèces arbustives. C'est très intéressant quand on a du repérage et des photographies de beaux arbres à faire dans ce pays. Alors, petite parenthèse, les macrocarpas souffrent en Europe, au moins dans les climats non continentaux, d'une anthracnose qui provoque un fourmillement de branches et qui les rend très inesthétiques. En fait, ils manquent de chaleur pour avoir des beaux macrocarpas, à part celui du Jardin des Plantes de Paris qui bénéficie peut-être d'une atmosphère urbaine un peu chaude. Il faut aller par exemple sur Strasbourg ou Nancy pour en voir des corrects. Sur l'Europe de l'Ouest, ils sont pas très jolis. Alors voici un arbre emblématique des paysages du sud-est des États-Unis. Vous avez vu Forrest Gump, notamment, quand le gamin court et perd ses articulations, il court sous une canopée de Quercus virginiana. Ce sont des arbres qui ont été beaucoup utilisés par les colons anglais quand ils sont arrivés aux États-Unis, ce qui fait qu'on a du mal à en trouver des gros maintenant. Puis l'ouragan Katrina, on a détruit énormément récemment. Mais on a un sujet ici d'une envergure de 47 mètres. Là, le tronc fait 3 mètres à la base. On l'a vu dans un lotissement à la sortie de Savannah. Il y a des maisons tout autour. Voilà. C'est vraiment le terrain de jeu de tous les enfants. Voilà. Et autrement, on a des alignements très impressionnants comme ça, avec des arbres qui sont plantés à grands espacements. Le chrysolepis, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est ce chêne avec des cupules dorées, jaunes. Et là, on a un très très gros sujet au Mont Palomar, en Californie. Ce chêne-là est malheureusement tombé il y a 2 ans. C'était une véritable pieuvre. Il avait des très grandes charpentières, très étalées aussi. Là, sur un environnement rocheux, pas très loin de l'observatoire californien. C'est-à-dire qu'on retrouve voilà, ces cupules dont certaines sont carrément en forme de turban. Quoi. C'est la même espèce, on peut avoir des cupules de formes différentes et des glands de formes différentes aussi. Pacifica, on a eu le privilège en 1997 de faire une conférence en Californie et d'avoir l'autorisation d'aller sur les îles qui sont au large de Los Angeles, les Channel Islands, et de faire une première récolte autorisée pour des non-californiens. Donc on a été trois à l'introduire en Europe dans certaines collections botaniques. Bon, personnellement, il a supporté dans le Loiret des températures de moins 15 degrés. Bon, certes, planqué le long d'un mur côté sud, mais quand même, il a tenu très bien. C'est un chêne à feuilles semi-persistantes et qui pousse en façade maritime. L'hypolocoïdes, qui est à mon avis probablement le plus beau des chênes américains, également testé en région centre. Il a un port de laurier sauce quand il est jeune. Et il a une écorce liégeuse ensuite. Et ce qui est impressionnant chez ce chêne persistant, ce sont donc la forme de ses feuilles et le revers des feuilles qui est tapissé d'un tomatum blanc très épais. Et voilà un persistant vraiment remarquable qui supporte également des températures de l'ordre de moins 17, moins 18 et des fortes chaleurs de plus de 40. Il n'y a pas de problème. Il est malheureusement rare en culture, très difficile à obtenir pour l'instant. Les sources seraient davantage mexicaines qu'américaines. Il faut savoir qu'avec le changement climatique, les chênes des milieux chauds et relativement secs aux États-Unis fructifient de moins en moins parce qu'il fait encore plus chaud et plus sec qu'auparavant. Donc ça devient difficile d'avoir accès aux ressources, même pour ces chênes-là. Ah, excusez-moi. Alors, Quercus agrifolia est l'équivalent un peu de notre chêne vert en Californie au niveau des paysages. On voit ici un absolument tentaculaire dans une réserve indienne. Là, on a donc des personnes qui montrent l'échelle, et tout ceci, c'est l'arbre, en fait. Vous avez 54 mètres de gauche à droite, pour un âge qui est estimé à 700 ans, donc cet arbre a été bichonné, parce qu'en fait, il faut uniquement l'autorisation des Indiens de la réserve pour pouvoir aller le photographier. Donc on n'a pas de, voilà, on n'a pas de tassement, et on a donc ces grandes branches qui recourent, qui retombent au sol. Bon, les chênes ne marcottent pas, hein. Ils drageonnent éventuellement, mais ne marcottent pas, donc là, ça ne s'enracine pas. Bon, c'est vraiment l'un des plus spectaculaires qu'on a eu l'occasion de voir pendant les différents voyages. Quercus austrina est un chêne assez rare du sud-est des États-Unis. On retrouve à nouveau ces tilantia, les palmiers, donc pour vous donner une idée un peu de la zone climatique, et des formes de feuilles de chêne qui sont assez déconcertantes aussi. Le buccléi, celui-ci, j'y attache une importance particulière, parce que vous voyez, c'est un chêne rouge, il a les feuilles qui ressemblent beaucoup aux chênes des marais, mais il pousse sur du calcaire actif. C'est très rare. Alors le problème, c'est qu'on le trouve généralement, le peu d'endroits où je le connais commercialisé, il est greffé sur Palustris, qui est calcifuge. Donc, c'est complètement stupide. Il faudrait pouvoir essayer de le faire connaître. C'est un chêne de petite taille, hein, souvent multicôle, qui dépasse guère les 15 mètres de haut. Et il y a des collègues à Angers qui essayent depuis 2-3 ans de le cultiver, essayent de le faire connaître. Et pourquoi pas de le commercialiser à plus grande échelle pour donc les petits jardins, et notamment sa résistance à la chaleur et au calcaire actif. Celui-ci, une attention particulière aussi, parce que lors de mon premier voyage au Mexique en 2005, on a récolté ce chêne dans le Nuevo León, c'est un état qui est au nord-est du Mexique. Et en fait, ce chêne n'avait jamais été ramassé auparavant par des Occidentaux, donc on l'a introduit en Europe pour la première fois. Et c'est un chêne à feuillage caduc ou semi-persistant, avec des cupules en forme d'entonnoir qui s'ouvrent au fur et à mesure que le gland mature. C'est assez curieux. Et on l'a testé, y compris dans le sud-ouest du Cantal, moins 18, il n'y a aucun problème. C'est, voilà. Au Mexique, on a aussi une réserve d'espèces de chênes qui sont particulièrement rustiques, et pas seulement au chaud. Rhizophila, lui, est davantage connu comme chêne de mexicain. C'est une sorte de bête de course que les Anglais ont découvert dans les années 80. Voyez, on est loin des formats de standard de chêne rouge classique. Donc on a des feuilles persistantes qui ont cette espèce de couleur pourpre au débourrement, et ensuite des glands un peu plus classiques, hein, de chêne rouge. Un chêne qui peut être de grand développement et qui est parti pour devenir plus gros, notamment dans les jardins botaniques britanniques, qu'au Mexique à l'état sauvage. C'est un chêne qui a une vitesse de croissance fulgurante. Hein. On a vu des pousses d'un mètre 80, 2 mètres dans l'année chez cette espèce-là. Quoi. Bel arbre d'ombrage. Encore d'autres chênes mexicains. Finis, qui est un chêne rouge à feuilles persistantes. Là, on a un grand sujet qui est dans un parc national au nord-est de Mexico. Quercus affinis est en culture chez un collègue qui a une collection de chênes dans la région Montauban. Un arbre qui a une bonne vigueur aussi. Crassipes. Alors, crassipes, ça signifie en latin gros pied parce que le pédoncule du gland est généralement plus épais que la branche qu'il porte. Donc on a à nouveau des feuilles linéaires qui sont blanches dessous et ces cupules caractéristiques. Il y a Quercus mexicana, il ressemble étrangement, mais quand on a les glands, en fait, on ne peut pas les confondre. Un peu typique de la forme des chênes mexicains, ce port assez ouvert. Quercus urbanique est peut-être l'un des plus singuliers. Les Mexicains l'appellent le cuchara, parce que ça signifie la cuillère. C'est un chêne qui a une feuille qui est complètement convexe. Vous ne pouvez pas mettre ça dans un herbier. Hein. Vous cassez la feuille en deux, en fait. Elle est complètement recroquevillée. Et en fait, la feuille recroquevillée permet de protéger les glands pédonculés qui sont planqués dessous, finalement. Alors, au débourrement, comme c'est le cas chez beaucoup de chênes mexicains, on a des couleurs qui sont très spectaculaires. Et ensuite, on a affaire à un chêne qui mesure 10 mètres, 12 mètres, bon an, mal an, hein, dans des terrains qui sont généralement très chauds et très secs. C'est vraiment Il y a un groupe de 4-5 espèces au Mexique qui ont ce type de feuilles-là, dont des feuilles qui peuvent atteindre 40 cm de long, hein, chez d'autres espèces. Resinosa, justement, se caractérise par ses feuilles pratiquement en forme de raquettes de ping-pong à l'état adulte, qui peuvent atteindre aussi entre 30 et 40 cm de long. Et on a un débourrement qui est rouge-orangé dessus et jaune-doré dessous. Encore une fois, les critères de pubescence et de couleur au débourrement permettent aussi d'identifier les espèces. Donc là, typique de ces chênes de milieu très sec, sorte de savane ouverte, avec une floraison mâle qui peut être spectaculaire. Hein, elle apparaît donc avant les feuilles, généralement. Parce qu'en fait, on a des phénomènes de saison sèche et de saison humide, donc on a parfois des pertes de feuillage qui sont totales, y compris pour ces espèces persistantes, finalement. Ça arrive. Suivant l'endroit où vous le trouvez. Les chênes au Mexique ont une aire généralement très vaste, et pour une même espèce, être sur des climats différents. Splendance, on peut dire comme son nom l'indique, avec un débourrement qui est rosé et des feuilles qui sont, vous voyez, complètement ovales et presque dépourvues de lobes. On a ce type de standard de chêne également au sud des États-Unis, Texas, Arizona, Nouveau-Mexique. Donc au débourrement, on a un arbre qui est complètement rose pendant 15 jours. Quoi. Quercus greggii, qui est un persistant, lui, là, il pousse sur du gypse, en fait, hein, sur les pentes du Cerro Potosí, le plus haut sommet de la Sierra Madre orientale. Un persistant qui est capable également de tenir les moins 20 degrés. Crassifolia, comme son nom l'indique, il a des feuilles épaisses, hein, des feuilles qui peuvent faire 3 mm d'épaisseur, hein, c'est raide comme du carton. On trouve à nouveau ces deux faces vert très foncé dessus, jaune doré très épais dessous et un débourrement qui est rougeâtre. Et là, on est dans la région de Puebla, au Mexique, avec à nouveau des tilancias qui poussent, associés à des pins, ces fameux mexicains port en dôme. Un petit tour au Costa Rica avec un sujet dans une forêt primaire, un Quercus copeiensis absolument gigantesque. Là, on est à nouveau dans le groupe des chênes rouges. Et on va finir avec l'Europe, avec quelques sujets spectaculaires, notamment dans l'Alentejo, au sud du Portugal, où on a les plus gros chênes lièges au monde. C'est une province très intéressante pour voir de beaux chênes. Alors, voici le fameux rotundifolia dont je vous parlais. Alors, ça, c'est pris dans le centre de l'Espagne, dans ce qu'on appelle la dehesa, qui sont des endroits où on cultive en fait les glands pour nourrir les cochons. Le fameux jambon serrano que vous mangez, qui est si bon, et en fait... Si bon parce que les cochons mangent des glands sucrés. Voilà donc la forme typique, le feuillage adulte et les formes très allongées de ces glands. On en retrouve même parfois dans des bouteilles d'alcool en Espagne, des espèces d'alcool très sucrées. Bon, alors en France, on n'a jamais vu des rotundifolia aussi gros que ça. Hein. Mais voilà, ouvrez l'œil si vous êtes sur le pourtour méditerranéen et que vous voyez ceci, des feuilles plutôt vert bleutées. Il y a peut-être des chances que vous tombiez sur ce fameux chêne qui n'est pas encore cartographié. Quercus silex, bon, je vous ai mis celui-ci parce qu'il est dans un groupe d'arbres âgés de 700-800 ans dans la région de Saint-Paul-de-Vence où il y a une nieuseraie qui est absolument prodigieuse, hein, assez difficile d'accès, mais on a des chênes verts qui sont inégalables en France. de ce format. Alors, le chêne vert est un arbre extrêmement costaud si on prend des bonnes provenances. Si vous ramassez des chênes, des glands dans les Cévennes ou dans les hautes altitudes des Pyrénées-Orientales, vous pouvez les tenir quasiment dans n'importe quel climat. Hein. Alors pour finir, ce qu'on fait d'autre avec les chênes que éventuellement de la menuiserie ou de la charpente, le fameux chêne d'Allouville, qui est un arbre vraiment culturel, hein, d'intérêt culturel, il y a une chapelle à l'intérieur. Il a été plus mal qu'il ne l'est là. Hein. Voilà, profitez-en tant qu'il a encore envie d'aller faire un tour dans la région de Rouen. Alors bon, on a des beaux sujets de parc. Pareil, il faut l'occasion d'aller visiter Kew Garden au sud de Londres. Bon, c'est en bout de piste de l'aéroport d'Heathrow. Vous avez un avion toutes les 3 minutes, mais à la fin, on ne fait plus attention aux avions. Quoi. On a un arboretum de plus de 100 hectares, donc on a de quoi y passer du temps. Et on a des chênes. Le côté très visionnaire de nos amis britanniques qui, quand ils ont planté les chênes il y a 200 ans, ont planté les arbres en imaginant le format adulte. Là, vous avez un arbre qui fait environ 30-35 mètres d'envergure. Et bon, là, ce n'est pas forcément trop le cas, mais quand on a bougé en étoile à l'autre bout, l'arbre suivant était à 50 mètres et c'était le même. Donc voilà, de l'arbre en forme libre qui a été planté vraiment en tenant compte des distances du développement parfait de l'arbre, quoi. Ça, les Anglais là-dessus sont très forts. Alors voilà, l'alimentation. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la DSA en Espagne avec les petits cochons qui gravitent autour et qui, vous voyez, les glands sont consommés. Vous avez en Afrique du Nord les baloutes que vous ramassez sur les marchés, les souks, ça vient de cet arbre-là, hein, la chêne à glands sucrés. Et on a aussi des glands comestibles sur d'autres espèces, notamment ici à Hong Kong, hein, au marché, avec un cyclobalanopsis à glands comestibles, le macrocalyx. Au Mexique, on a consommé des glands d'une espèce de chêne rouge qui avait des glands plus sucrés que des amandes. C'était vraiment prodigieux. Voilà, c'est aussi quelque chose d'alimentaire. Alors, les chênes produisent en association, évidemment, ça les truffes, ça. Enfin, ils produisent pas, mais ils poussent ensemble, ça vous connaissez. Mais on a aussi les fameux shiitake, les champignons commercialisés au Japon. En fait, ils sont issus d'arbres de chênes qu'on abat, qu'on coupe en deux comme si on allait faire des plots, et on laisse les champignons se développer sur les arbres. Bon, c'est destructif, mais ça permet de produire ce champignon couramment consommé en Extrême-Orient. Bon, voilà, d'autres utilisations plus anecdotiques. Hein, le tannage des peaux, là, c'est dans un atelier qui se trouve en Allemagne, le dernier, à pratiquer vraiment encore cette activité de manière industrielle. Bon, les tonneaux de chêne, notamment européens et français, qui partent dans le monde entier. Ça, c'est le chantier de l'Hermione, qui est quasiment bouclé, je crois, en Charente-Maritime. Il me semble qu'ils vont le mettre à l'eau cette année, le bateau. Encore en profiter pour aller voir les constructions. Tout construit en chêne. Et oui, on trouve aussi le chêne sur les euros allemands. Ça, c'est emblème de la maison. Sur des timbres britanniques. En cherchant bien, on en trouve un peu partout. Voilà. Donc, ça a été 7 ans de voyage, de travail, etc. Le chêne m'a permis de voyager, je lui en suis éternellement reconnaissant. Ça nous a permis de voir des tas de choses. Et grâce à toute une équipe collégiale, on a réussi à faire ce travail, notamment des membres de l'Association internationale des chênes, qui va se réunir cette année en France. La 7e conférence triennale aura lieu à Bordeaux cette année, fin septembre, début octobre. Donc, si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Voilà, pour finir, une petite vue de la Grande Muraille de Chine avec les Quercus mongolica. Du moins ce qu'il en reste, parce qu'il n'y en a plus beaucoup en Chine, tellement ils ont été exploités. Merci beaucoup.